Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
La manifestation contre la loi sécurité globale a été émaillée de scènes de vandalisme samedi à Paris. Ce sont toujours les mêmes scènes, évidemment, avec ces black blocs qui cassent tout sur le chemin de la manifestation et des policiers qui n'interviennent pas parce que ils ont le sentiment que c'est la meilleure stratégie. En tout cas, c'est pas eux qui décident. D'ailleurs, c'est le pouvoir politique qui décide. Bonjour François. Rebonjour.
Oui, bon rebonjour Pascal. Eh bien oui, c'est, vous l'avez dit, c'est le pouvoir politique qui décide et le pouvoir politique a peur. Il a peur qu'un dérapage fasse qu'un jour il y ait un mort dans la manifestation.
Mais est-ce qu'il a raison ? Est-ce que c'est la bonne stratégie ? Parce que personne ne peut cautionner d'avoir sur le bitume un mort parmi les manifestants, vous comprenez ?
On ne peut pas cautionner un mort parmi les manifestants, mais on ne peut pas cautionner pour autant toute cette violence et la police qui est prisonnière de cette peur d'aller au contact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contact, il va être obligatoire et obligé. Parce que d'abord, dans les black blocs, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas toujours des gens qui vont revendiquer quelque chose de social. Il me semble que samedi dernier, dans ceux qui ont été interpellés, il y avait, je dirais entre parenthèses, des fils dits à papa, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas forcément de besoins sociaux véritables, mais qui avaient qu'un besoin d'une violence gratuite. Donc ça, c'est important, il faut le souligner. Les black blocs, ce ne sont pas simplement des gens qui vont revendiquer quelque chose d'important. Et puis, une démocratie qui ne peut pas s'appuyer sur une police forte, eh bien, la démocratie va vers l'anarchie. Et ça, c'est
non,
important.
Non, mais vous dites police forte, est-ce que c'est fort de ne pas répondre ? Vous voyez, on pourrait vous répondre cela, que précisément,
oui.
la maîtrise de ces manifestants, d'accepter en fait des vitrines cassées, d'accepter des voitures brûlées, c'est une forme de force que la police met en œuvre. Elle reste, si vous voulez, sereine. Sur le terrain, vous voyez,
La police, je pense pas que la police reste sereine sur le terrain. La police, elle reste sur le terrain sans agir, parce que au-dessus de la police, il y a des gens qui donnent des ordres, il y a un ministre, et ces gens-là, eh bien, ils ont une peur une peur politique d'avoir à justifier une charge de police.
Nous sommes d'accord, mais est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce qu'il faudrait faire autrement? Et François, alors, restez avec nous, on va demander à Marc, parce que Marc intervient souvent, il est policier. Et évidemment, Marc, vous écoutez notre conversation, ce sont les ordres, hein. On vous demande de ne pas, au fond, aller au combat, au contact. Nous sommes d'accord, Marc?
Oui, tout à fait, Pascal. Bonjour. Oui,
bonjour.
De me recevoir sur votre antenne, ça fait plaisir. Oui, effectivement, oui, c'est ce qui se passe, mais tout ça, c'est lié, en fait, à ce que nous, on dit chez nous, hein, donc dans la police, hein, c'est le syndrome Malik Oussekine.
Hein, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que c'est la bonne stratégie? Je la pose depuis 5 minutes déjà. Est-ce que vous, qui êtes policier, est-ce que c'est la bonne stratégie?
Vu le résultat qu'il y a pour le moment, en fait, les dégâts ne sont que matériels. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les gens qui sont au-dessous de nous, hein, nous on est là, policiers, on nous donne des instructions, on regarde ce qu'on fait, on essaye de se protéger les uns les autres et de faire attention à rentrer entier tous les jours, enfin tous les samedis après-midi à chaque fois qu'on a fini une manifestation. Mais ce qui se passe, c'est que si c'est des abribus, s'il y a des voitures qui sont brûlées, s'il y a des choses comme ça et tout, c'est pas très très grave. Vous savez, je me souviens, moi, quand j'étais, puisque ça fait comme quelques années que je suis policier, ça fait plus de 30 ans, donc j'ai eu le temps de voir des manifestations et de voir, en fait, les moments changer. Je peux vous dire que pendant l'affaire Malik Oussekine, le seul mot d'ordre qu'il y avait après, c'était, et même à l'Assemblée nationale, je me souviens d'un député, je ne sais plus de quelle couleur politique il était, d'ailleurs, peu importe, il a dit « il vaut mieux 300 policiers blessés qu'un Malik Oussekine ». Et cette doctrine-là est toujours d'actualité. Donc, en fait, c'est pas très très grave que les policiers soient blessés, tombent sous les coups, c'est pas grave. Quelque part, c'est du domaine de l'acceptable. Ce qui serait inacceptable, vous l'avez très bien dit en fait, c'est qu'un jour, il y ait un manifestant qui soit mort sur le bitume.
Alors, on parle tous les jours d'ailleurs de l'affaire Malik Houssekine et il faut la rappeler. Je pense qu'elle est dans la mémoire de beaucoup de nos auditeurs. Mais c'est une affaire donc de violence de policiers qui ont provoqué la mort de Malik Houssekine dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986 à Paris, après plusieurs semaines de contestations étudiantes contre le projet de réforme de Vaquet. Et dès le lendemain du décès, d'ailleurs le samedi matin, les étudiants ont été reçus au ministre de l'Intérieur et ont organisé une marche silencieuse, tandis que le ministre de Vaquet présentait sa démission. Il est 13h07, on va marquer une première pause. Vous pouvez parler d'autres sujets, et notamment, ça c'était très intéressant dans le journal de Christelle Robière, du nombre de cas qui ne diminue pas aussi vite qu'on l'imaginait. On est à 11 000 cas et il y a des foyers en France qui repartent, notamment à Dijon, j'entendais dans le journal de 12h30. Est-ce qu'on sera à 5 000 dans 8 jours? Ce n'est pas certain, donc ça c'est un sujet sur lequel vous pouvez intervenir. Et puis sur ce que vous avez fait ce week-end, est-ce que vous avez commencé vos courses de Noël peut-être? Est-ce que vous voyez qu'il y a peut-être un peu de relâchement dans les commerces? À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Est-ce que la police fait ce qu'il faut pour arrêter les Black Blocs? Est-ce que le monde politique fait ce qu'il faut aussi? Est-ce que le gouvernement fait ce qu'il faut pour arrêter les Black Blocs? Alors Marc nous disait que ce n'était pas forcément la mauvaise stratégie, parce qu'il n'y a pas de... Il est policier, Marc. Il n'y a pas de dégâts humains, et c'est finalement l'essentiel. Bertrand est avec nous, qui est gendarme, et ça va être intéressant peut-être de vous entendre, Bertrand. Bonjour.
Bonjour, Pascal.
Vous habitez Dieppe.
Oui, mon point de vue sur la chose, c'est que on a malheureusement le phénomène où il faut surtout pas faire de blessés parmi, enfin de blessés de mort parmi les manifestants. Ceci étant, c'est pas un problème pour les manifestants de faire un mort ou de faire des morts dans les forces de l'ordre. Ils sont payés pour ça. Et puis derrière, on a une justice qui va peut-être distribuer quand même quelques peines de prison.
Mais non, aujourd'hui, il y a eu 70 interpellations ce week-end. Il n'y a pas un Black Bloc qui est en prison. C'est fascinant, d'ailleurs.
Bon, c'est un rappel à la loi, alors. Pas bien, il ne faut pas le refaire.
En tout cas, factuellement, il y a peut-être encore des gardes à vue qui sont en cours. Oui. Elles ne sont pas terminées. Mais à 13h11 aujourd'hui, sauf erreur de ma part, sur les 70 interpellations, il n'y a aucun Black Bloc en prison. Donc évidemment, ça choque. Ça surprend. Voilà, ça surprend.
Oui, non, moi, ça me choque. Ça me choque complètement parce que, de toute façon, quand vous voyez un petit peu les dégâts qu'il y a sur la voie publique, etc., qui est-ce qui paye? C'est peut-être pas les Black Blocs qui ne payent peut-être pas d'impôts, mais c'est vous, c'est moi. Moi, je veux bien payer des impôts, mais je veux pas payer pour de la casse faite par des trous du cul, je m'excuse, là c'est sorti. J'aurais dû le dire autrement, peut-être. Oui, non, mais voilà, ça sort. Parce
d'ailleurs,
que
je ne suis pas sûr que ce soit le mot juste tout à fait, parce que ce sont des gens organisés, ce sont des gens qui combattent, pourquoi pas, notre société, ce sont des gens, c'est l'ultra-gauche qui veut mettre à bas le système capitaliste. Donc je ne sais pas si le terme que vous avez employé est tout à fait le terme adapté.
Oui, enfin bon, là, le problème, c'est
mais
que...
Mais qu'est-ce qu'il faut faire, surtout? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire?
Faut pouvoir avoir une réponse adaptée. Et donc, adaptée, quand on a des objets incendiaires face à soi, je crois que le LBD qui fait des dégâts, qui est dangereux, qui a fait des... Effectivement, c'est toujours dommage d'avoir des gens éborgnés ou des gens blessés grièvement. Mais comme je le disais...
C'est plus que cela. Je dis c'est plus que cela, le mot dommage.
Oui, non, mais voilà, des blessures.
C'est dramatique, en fait.
Voilà, c'est dramatique. Non, mais bon, j'admets qu'effectivement, perdre un œil sur une manifestation, que ce soit, entre guillemets, volontaire, involontaire de la part du tireur, bon, je pense que c'est malgré tout involontaire. Il faut faire, pour les manifestants, il faut manifester et faire prendre conscience qu'en face, aux hommes politiques qu'on n'est pas d'accord. Mais ceci étant, est-ce que ça vaut le coup de casser, de casser du flic, de casser des entreprises, de casser des commerces de casser du mobilier urbain, de casser des biens d'autrui. Qu'est-ce qui finalement est le préjudice, il est pour qui? Bon, bah, l'État, bah, il va remplacer, c'est tout, mais avec quel argent, avec le nôtre, hein, c'est
oui,
tout.
Mais il n'y a pas que l'État, il y a aussi les commerçants. On a vu la rue de l'État qui, voilà, effectivement, n'en peuvent plus. C'est un quartier assez populaire, en plus, le 20e arrondissement. Cette rue Gambetta. Merci en tout cas Bertrand. Merci beaucoup. Oui. Jean-Daniel est là aussi, qui est ancien fonctionnaire de police. C'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir, les Black Blogs. Bonjour.
Oui, bonjour. Oui, je tenais à parler. Moi, je suis en retraite depuis déjà quelques années. Et j'avais entendu un discours opposant la gendarmerie et la police, un colonel de gendarmerie ainsi avec un commissaire divisionnaire, qui proposait, j'étais assez d'accord, pour faire évoluer les choses, parce que déjà dans les années 2000, c'était la même chose en moins violent, tout simplement d'ouvrir des camps, que ces gens-là, sans les torturer, mais qu'on fasse, qu'on les éduque, qu'on leur donne les bonnes manières. Idem pour la prison, d'ailleurs, le commissaire avait dit, j'avais été surpris que la prison ne servait pas à grand-chose, dans la mesure où quelqu'un qui fait 5 ans de prison, il ressort, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il recommence, etc. Donc le but, c'est de les former, de les éduquer, de leur trouver un travail, etc.
Et là, vous parlez de qui, là? Des Black Blocs?
Non, des Black Blocs ou des délinquants en général.
En général, vous avez, il n'y a pas un délinquant, j'allais dire, qui ressemble à un autre délinquant?
Non, mais d'accord, mais je veux dire, ceux qui casent, ceux qui tuent, ou la violence conjugale qu'on entend vis-à-vis des femmes, etc. Mais
tout ça,
La prison, je veux dire, ça, c'est une chose. Pour les très grands délinquants, on est d'accord. Mais là, quand on voit ce qui se passe,
un homme qui frappe sa femme, c'est un très grand délinquant. Je comprends pas mal le fil conducteur de votre raisonnement.
Le fil conducteur, il est très simple. Je veux dire, au lieu de ne rien faire, ce qui est le cas, je rejoins les propos du gendarme avant, qu'on fasse, des camps pour rééduquer ces gens-là. Oui. Qu'on puisse les insérer dans la société, qu'ils ne redeviennent pas des délinquants. Parce que les Black Blocs, comme vous venez de dire, il n'y en a aucun qui est en... Ils ont été en garde à vue, il n'y en a aucun qui va en prison. Et même s'ils faisaient 2 mois de prison, admettons qu'ils fassent 2 mois de prison, il ressort, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il recommence, on est d'accord. Je veux dire, et c'est sans fin. Et moi, j'ai l'impression, moi, mon amie était commerçante, je pense à eux, je suis surpris qu'ils ne soient pas plus rebelles. Parce qu'au bout d'un moment, il y a eu le coronavirus, il y a eu les gilets jaunes, maintenant c'est les Black Blocs, après ils rebossent, on leur casse leur vitrine. Au bout d'un moment, on va où, là? Et puis, comme a dit très bien, j'allais le dire, mais qui c'est qui paye? C'est nous tous, c'est vous, c'est moi, etc. Bon, alors au bout d'un moment, il faut peut-être stopper l'hémorragie, quoi. Enfin, je sais pas... Mais les pouvoirs politiques, je rejoins encore son idée, parce que moi, je sais que j'avais discuté longuement, puisque j'étais délégué syndical avec un commissaire, qui m'avait dit, c'est sûr, vaut mieux qu'il y ait des dégâts, comme il m'avait dit une fois, les assurances paieront, c'est sûr. Parce que quand il y a des dégâts, on laisse faire, tout va bien, après, bon, bah, qu'à partir du moment où on va au contact, on intervient, alors c'est vrai qu'il y a de la violence policière. Mmh. Moi, je l'ai critiqué même à l'époque. Mais il faut savoir pourquoi il y a de la violence policière, parce que la violence entraîne la violence, enfin vous le savez très bien comme moi, et puis après c'est sans fin, quoi. Et puis après, alors, moi je sais pas, je parlais avec votre collègue au téléphone, je sais pas si vous avez vu le reportage sur le Mexique, sur la drogue au Mexique, mais alors ils arrivent à un point où le gouvernement a fait marche en arrière, parce qu'ils ont tué un officier de police judiciaire en pleine rue pour montrer leur force, et en fin de compte c'est plusieurs dizaines de milliards qui transitent là-bas par la drogue, donc ils peuvent rien faire. Alors, on en est parlé en France, bien sûr.
On a le sentiment en tout cas que sur ce phénomène de Black Bloc, d'un samedi à l'autre, on ne peut rien faire pour les raisons qu'on explique depuis un quart d'heure, c'est-à-dire que en fait nous sommes sous le coup de notre doctrine qui a été élaborée des 68. D'ailleurs, tous les gouvernements, c'est quasiment la même doctrine depuis le préfet Grimaud, c'est-à-dire qu'on ne veut pas de dégâts, d'incidents majeurs sur le bitume. Je le répète, cette doctrine s'explique et elle est compréhensible, bien évidemment. Mais aujourd'hui, devant cette violence-là, est-ce qu'il faut aménager cette doctrine ou pas? C'est un peu le débat que nous avons. Il est 13h18, on va marquer une pause. Vous pouvez également réagir sur le Covid et sur les chiffres qui inquiètent, disons-le, puisqu'on est non pas reparti à la hausse, mais ça baisse moins vite qu'on aurait pu l'imaginer. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et à 13h30, évidemment, nous aurons comme tous les jours jusqu'au 24 décembre une auditrice ou un auditeur, je ne sais pas.
Une auditrice.
Une auditrice qui viendra nous parler de son Noël, son souvenir et nous proposer une chanson avec Monsieur Cadou, qui est Greg Caranoni.
Et rendez-vous à 13h30 dans moins de 10 minutes. En attendant,
bonjour Laurent.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Nous venons sur le sujet qui vous fait réagir sur la page Facebook de l'émission. La police fait-elle tout ce qu'il faut pour arrêter les Black Blocs? Comment en finir avec ces violences et dégradations? Eh bien, je ne comprends pas, écrit Camille. Comment peut-on laisser ces casseurs se défouler chaque week-end? On les regarde et on ne fait pas grand-chose. J'en ai marre de ces manifestations, lance Annie. Quelle honte pour notre pays. Quelle image sommes-nous en train de donner à nos voisins européens et dire que certains affirment que nous sommes en dictature? Ces images, bien, ne sont plus possibles, rajoute encore Thierry. Qui va payer tous ces dégâts? Sûrement pas ces Black Blocs. C'est de la faute des politiciens, répond Aurélien à l'instant. Ces tensions doivent arranger certains. Et que font les organisateurs des manifestations, demande Grégory. Je me le demande encore.
Ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir un manifestant à l'antenne, peut-être quelqu'un qui a cassé et qui nous explique sa démarche, si tant est qu'on puisse comprendre une telle démarche. Pour le moment, nous sommes avec Frédéric, qui est commandant de police. Alors, on a beaucoup de policiers, évidemment, qui nous donnent leur avis. Bonjour Frédéric.
Bonjour Pascal.
Vous êtes dans les Hauts-de-France. Donc, d'abord, je ne sais pas comment vous faites ou comment vous allez faire pour recruter des policiers en France ces prochaines années, parce que ça va devenir quand même de plus en plus difficile de convaincre des jeunes gens d'entrer dans la police avec ce qu'ils reçoivent parfois et ce qu'ils subissent sur le terrain, évidemment, lors des manifestations, mais pas que, j'ai envie de dire, la manière dont ils sont montrés du doigt dans notre société.
Oui, tout à fait. Et ce qu'on a vu ce week-end est symptomatique de ce que l'on vit actuellement depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est qu'en fait, nous sommes seuls. Nous sommes seuls face à un mur et personne ne vient nous aider, et notamment ceux qui doivent nous aider, c'est-à-dire nos dirigeants. Alors qu'ils soient de la police ou des politiciens professionnels, nous ne sommes aidés par personne. Alors certes, il y a quelques petites déclarations ici ou là pour tenter d'apaiser un mal-être ou une grogne, mais là, j'ai envie de dire, ça suffit. Nous en avons ras-le-bol. Nous en avons marre. À tel point que dorénavant, et jusqu'à ce que les choses changent, et je ne sais pas si elles changeront, nous n'allons assurer que les missions de police-secours.
Bah écoutez, je peux comprendre, il y a une mise en perspective. Je voyais par exemple samedi sur le compte Twitter de l'AFP, donc je ne veux pas jeter la pierre à l'AFP, mais le compte Twitter, c'était « incident à Paris ». Non, ce n'est pas des incidents.
Non,
en fait, les mots, ne sont jamais dits. Lorsqu'un manifestant lance un marteau sur un policier, ça s'appelle une tentative de meurtre.
Tout à fait. Et on a le droit de tuer celui qui veut faire une tentative de meurtre. Alors, je n'appelle bien évidemment pas au meurtre, nous sommes des gens responsables et raisonnés, mais un cocktail Molotov, un marteau, un parpaing, c'est autre chose qu'une fleur ou un bisou virtuel. Et je pense que ça, ceux qui nous disent « oui, il faut faire descendre l'armée dans la rue », mais bien évidemment, et il y aura 200 morts et ces mêmes gens diront « ah ben oui, mais il y a des morts dans la rue ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et quand j'entends un certain politicien qui gagne 7239 euros par mois, qui est député, un grand rouquin, si vous voyez ce que je veux dire, qui dit ouvertement à la télévision, il faut que la police soit reprise en main. Mais qu'il vienne, j'ai vu son cursus, il est conseiller clientèle à EDF. Non mais qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est EDF qui va venir nous dire à nous, policiers de terrain, comment il faut faire notre travail? Mais arrêtons cette blague, arrêtons cette blague. Arrêtons cette blague et arrêtons de donner du crédit à des gens qui n'en ont rien à faire de nous. Ils ne sont là, devant les caméras ou à la presse, que pour flatter leurs égos de politiciens et préparer leur réélection. Parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Il n'y a que ça qui fonctionne.
Non, mais il y a aussi parfois des objectifs politiques qu'ils recherchent qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, c'est tout. Et des sociétés qui sont différentes de la vôtre.
C'est pour ça que ça ne peut pas aller, Pascal. C'est pour ça que ça ne peut pas aller. Nous sommes là pour protéger les personnes et les biens. On n'est pas là pour se faire déglinguer tous les week-ends parce que on nous interdit de travailler. On nous a
mais qu'est-ce que vous voudriez faire? Vous voudriez répondre, par exemple?
Bien évidemment.
C'est-à-dire que vous êtes partisan de la réponse sur les Black Blocs?
Bien bien évidemment.
Mais c'est quoi la réponse? Ça veut dire quoi concrètement?
Alors, on avait du LBD, comme a dit l'auditeur précédent, effectivement, et c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait des gens qui étaient frappés dans leur chair par un outil qui est censé défendre les policiers. J'en suis le premier désolé, et franchement, si on peut s'excuser, on s'en excuse.
Donc le LBD, par exemple, n'est plus utilisé aujourd'hui dans les manifestations?
Pascal, un tireur de LBD, il faut qu'il ait une caméra sur son LBD. Encore faut-il qu'elle soit présente et qu'elle fonctionne. Il faut un superviseur. Donc c'est-à-dire quelqu'un à côté qui va dire « Ah ben, là on peut tirer, mais il y a le temps d'interprétation et d'adaptation à la situation ». On avait des grenades. On nous a dit « Ah, les grenades, ça fait du mal ». Eh ben, on nous a donné des grenades moins puissantes. Quand on se fait attaquer à coup de cocktail molotov ou de marteau, l'article 435-1 du Code de la Sécurité Intérieure indique que nous sommes en légitime défense. Donc, nous pourrions utiliser nos armes. Et est-ce qu'on le fait? Non. On ne le fait pas. On ne le fait pas parce que c'est comme aller chercher quelqu'un qui commet une infraction, on est filmé et on ne retient que la scène où le policier, certes, va user de violence, mais c'est une violence légitime parce que quelqu'un a commis un acte.
Mais vous pensez, oui, je vous repose la question, qu'il vaut mieux cette stratégie-là de faire le dos rond? Ou vous pensez que vous devriez répondre? Et vous m'avez dit tout à l'heure, on doit répondre. Et là, évidemment... on change d'atmosphère si on répond.
Non, mais ça va durer combien de temps? Combien de temps les commerçants vont avoir leur commerce saccagé? Combien de temps les gens ne vont plus pouvoir aller dans la rue par crainte de se faire prendre dans une manifestation avec des imbéciles?
Ah ben c'est sûr que le samedi, les gens aujourd'hui ne vont plus faire leurs courses de la même manière et ça va recommencer encore samedi prochain et visiblement. On est parti pour une séquence qui ne va pas s'arrêter forcément immédiatement. Bien, je vous remercie beaucoup, Frédéric. J'entends votre colère et effectivement, être policier aujourd'hui, c'est un sacerdoce parce que c'est difficile. On prend des coups au sens propre comme au figuré. Il est 13h28, on va marquer une pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Il est 13h31 et tous les jours, d'ici le 24 décembre, vous entendrez cette musique de Noël avec Greg Caradoni.
Bonjour à tous.
C'est quoi cette petite musique, Greg?
Oh, c'est ce qu'on appelle une musique d'illustration de Noël, c'est-à-dire que c'est teinté, coloré, pour se mettre dans la magie de Noël, puisque je sais que vous aimez l'association des deux mots.
Et nous sommes avec qui alors?
Nous sommes avec Véronique.
Ah, Véronique. Bonjour Véronique.
Bonjour Pascal.
Et l'idée, c'est tous les jours de raconter un Noël à soi, votre Noël à vous, si j'ose dire.
Voilà. Moi, j'ai un souvenir d'un Noël où il y avait... j'avais mes sœurs, j'avais mes parents, donc qui maintenant sont partis. Mes parents avaient un employé qui vivait seul, donc qui était venu aussi à la maison. Et il était d'accord pour se déguiser en Père Noël. Donc en fait, il y avait tous les enfants qui étaient là. Bon, moi, j'avais 6 garçons, il y avait mes sœurs qui avaient leurs enfants. Il s'est déguisé en Père Noël, on a mis les cloches. Bon, j'étais dans une maison avec un escalier qui arrivait effectivement dans le salon. On avait fait plein de décors et tout. Et alors, ce qui a été très drôle, c'est que les enfants étaient à l'étage du dessus. Donc quand on a mis les cloches, on a dit « Ah, voilà le Père Noël, etc. » Donc le monsieur est monté bien au Père Noël. Et même ma petite nièce, qui était la plus grande des enfants, qui devait avoir peut-être entre 8 et 10 ans, qui disait « Mais de toute façon, le Père Noël, j'y crois pas, ça n'existe pas. » Elle est restée scotchée. On a vu dans ses yeux un grand point d'interrogation de voir ce Père Noël arriver. En plus, c'est un monsieur qui avait de l'embonpoint et tout, donc il avait vraiment le profil. Et là, on s'est dit, bon, là, on a réussi notre coup parce que là, elle sait plus, quoi. Donc, ça a été vraiment un Noël très sympa. Voilà, où lui, bon, bah, il a distribué les cadeaux. Après, il est reparti, il est revenu habillé autrement. Mais c'était sympa.
Bon, et cette année 2020, quel est le programme?
Eh bien, j'ai 4 enfants, mes fils, un avec sa femme, et puis ma petite fille qui a 2 ans et demi. Et voilà, on sera 6 plus la petite, quoi.
Mais si vous avez 4 enfants, les 4 ne seront pas là?
Si, si, mes 4 fils seront là.
Mes 4 fils seront là. D'accord, mais eux, ils n'ont pas de compagne?
Non, il n'y en a qu'un qui a une compagne. Voilà, il n'y en a qu'un qui a une compagne. Donc sa compagne sera là. Mmh. Et les trois autres n'en ont pas. Et puis j'aurai ma petite fille donc qui sera là. Ouais.
Et c'est chez vous, voilà. Véronique?
Oui, ah oui, ça fait des années que c'est chez moi. Moi, j'avais pris le relais de maman. Parce qu'au début c'était chez maman, j'ai pris le relais et donc j'ai pendant des années reçu tout le monde et puis je continue maintenant avec mes enfants quoi.
Et voilà. C'est dans toutes les familles un peu pareil, Véronique. Mais non, mais Véronique. Et alors vous, quelle est la chanson qu'on va écouter, votre chanson que vous préférez de Noël?
Ah ben moi je suis assez classique avec mon beau sapin. Je trouve qu'elle est elle est très belle. Elle est, on la connaît tous. Donc j'aime beaucoup mon beau sapin. Voilà.
En même temps il y a des milliers de versions de mon beau sapin. Donc est-ce que vous avez choisi une version ou est-ce que vous avez laissé choisir Jacques Caranoni tout seul?
Ah oui non parce qu'il m'a demandé. J'ai dit oui mon beau sapin. Voilà j'ai pas.
Mon beau sapin dans une version. Grégory qu'est-ce que vous
alors,
avez?
Alors si vous aimez mon beau sapin en version classique, moi je vous propose Tino Rossi.
Et eh ben allons-y.
Voilà. Voilà. Exactement.
Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure, qu'au port l'hiver bois égaré, sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin,
ouais, c'est beau, c'est beau.
Bon, ça peut être un chant de Noël d'origine allemande, son titre original, O Tannenbaum, la version la plus célèbre est basée sur une musique traditionnelle et un texte de 1824 composé en allemand par Ernst Anschütz, organiste et professeur à Leipzig, ville qui fait alors partie du royaume de Prusse. La première version connue des paroles datant de 1550, une autre version a été composée en 1615 par Melchior Franck. C'est fou, hein? Donc c'est pas nouveau, hein, version. Et la version française, elle daterait de 1856 avec Laurent Del Casso.
Récent,
non, c'est pas récent.
Ça reste dans les familles parce qu'on l'entonne tous, on l'a tous entendu nos grands-parents le chanter.
C'est vrai, voilà, c'est vrai, mon beau sapin.
Sympa,
vous avez un sapin de Noël,
oui.
Véronique?
Oui.
Donc
oui,
il est fait là déjà?
Oui, je l'ai fait ce week-end.
Ah, bon, bah écoutez, c'est parfait. Grégory, vous l'avez fait aussi?
Non, pas encore. Moi, j'attends la semaine prochaine parce que je veux qu'il soit encore le plus beau possible pour Noël. Sûr, je retarde sûr. Un
bah,
petit
moi,
peu.
Moi, je vous avais raconté ma petite anecdote. C'est que
votre sapin qui a.
C'est pas le mien, c'est celui de ma maman.
Oui, celui de votre maman.
Il a 40 ans.
40 ans.
Ça ressort du grenier chaque année qui est en plastoc. c'est le fameux sapin de Noël qui est inusable.
Hein. Mais moi, une année, j'ai refait mon sapin avant que les enfants arrivent. Parce que il n'a pas tenu. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Donc, je suis allée en racheter un. Et donc, j'ai fait deux sapins. Voilà.
Et je connais une amie qui défait son sapin de Noël vers le 15 mai. Donc, évidemment.
Ah oui, quand même.
Ah oui, non, mais elle le laisse comme ça.
Donc, oui, donc c'est pas un vrai.
Une amie proche.
Et elle le refait début juin.
elle le dépoussière et elle le remet.
Bon. Véronique, je vous entendais chanter tout à l'heure. Et vous savez qu'on vous offre des cadeaux dans Les Auditeurs ont la parole. Vous aimez Danny Briand?
J'aime assez, oui.
Vous aimez assez.
Moi qui aime danser, oui.
Ah bah écoutez, on vous offre. Alors, c'est un objet à la fois de collection qui vous permettra d'écouter les chansons de Danny Briand. Un disque vinyle de Danny Briand qui reprend Aznavour.
Donc,
ce sera votre cadeau aujourd'hui. Vous n'avez pas de platine. Bon, bah écoutez, vous aurez l'objet en décoration. Voilà.
J'ai eu, mais j'ai plus.
Merci.
J'ai eu des platines.
Merci Véronique. Merci beaucoup. Vous appelle Véronique ou on vous appelle Véro?
Ah, c'est souvent Véro, oui. C'est
sûr. Bon, bah écoutez, on salue toutes les Véroniques et toutes les Véros qui nous écoutent.
C'est gentil.
13h37.
Merci à vous.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Voitures brûlées, banques, agences immobilières vandalisées, des nouvelles scènes de violence ont eu lieu samedi lors de la manifestation contre la loi de sécurité globale, des incidents à Paris, Lyon, Dijon ou encore Nantes. 95 personnes ont été interpellées, 67 membres des forces de l'ordre blessés. Mais la police fait-elle tout ce qu'il faut pour arrêter les Black Blocs? Doit-elle changer de stratégie, aller plus au contact? Grégory Joron est le secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police et Faux. Il était l'invité de RTL Soir avec Vincent Parisot samedi.
C'est pas parce qu'ils sont 100 et nous un millier que c'est facile de les maîtriser, au contraire, parce qu'ils sont au milieu des manifestants pacifiques, et aller les chercher créerait forcément des blessés parmi ces manifestants pacifiques. Donc c'est toute la difficulté de l'exercice, et je pense qu'on a pris beaucoup de retard sur la gestion de ces groupes ultra qui ont une idéologie politique, hein, celle de créer le chaos et de déstabiliser.
Alors comment empêcher les casseurs de perturber les cortèges? Le gouvernement est-il à la hauteur? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et Emmanuel Macron ont-ils raison de maintenir leur confiance au préfet de Paris, Didier Lallemand? Avec nous en studio à 14h, Sylvain Maillard, député de Paris et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale.
On continuera évidemment entre 14h et 14h30 de parler des Black Blocs, mais c'est important également de parler de cette troisième vague possible et des contaminations qui semblent remonter, qui empêcheraient, je parle au conditionnel, un déconfinement le 15 décembre prochain. Patrick est là, il est commercial et il habite Vincennes. Bonjour.
Bonjour Pascal, vous allez bien?
Bah écoutez, je vais bien dans cette atmosphère chargée.
Ah oui, oui, tout à fait, c'est plus que chargé, c'est comme le temps, c'est chargé, c'est lourd.
Exactement.
Moi, ce que je voulais dire par rapport au Covid, c'est qu'il y a eu très mauvaise communication de base du gouvernement. On ne savait plus sur quel pied danser. Le deuxième confinement n'a pas été à la hauteur, je pense, parce qu'on a voulu un peu... essayer de sauver l'économie tout en préservant...
C'est la moindre des choses.
Oui, tout à fait, mais on fait comment? Moi, je pense qu'on va droit devant un troisième confinement. Mais il faudra qu'il soit beaucoup plus rigoureux que ce qu'il n'a été au deuxième. Sinon, on ne s'en sortira pas.
Mais qu'est-ce que vous appelez ne pas s'en sortir? Il y a 3000 personnes en réanimation aujourd'hui. On est 70 millions de Français.
Tout à fait.
Non mais c'est ça que je saisis mal. Qu'est-ce que vous appelez ne pas s'en sortir?
C'est-à-dire que le confinement est fait de base pour préserver et surtout éviter d'étouffer les hôpitaux, ce qui est logique. Nous avons des gens en réanimation, mais vous savez, la grippe tue beaucoup plus que le Covid. On fait quoi? Est-ce qu'on va confiner par rapport à la grippe?
Non mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a un moment où le remède peut être pire que le mal. Vous me parlez d'un troisième confinement. Vous avez des gens, des sociétés qui sont par terre. Vous avez des restaurateurs qui ne vont peut-être pas retravailler avant le 20 janvier. Vous avez de l'argent qui est distribué et qui hypothèque peut-être celles et ceux qui vont commencer à travailler, les jeunes générations. Et vous me dites qu'il faut un confinement encore plus sévère et pourquoi pas la troisième fois?
Non. Je pense qu'on va arriver sur un troisième confinement, mais à la base, les confinements, surtout le deuxième, a mal été géré.
Il a été mal géré. Il y a 11 000 contaminations aujourd'hui en France. Oui. 11 000.
Oui, et ça descend pas.
Mais 11 000, on est. Je veux dire, j'entends Patrick. On est 70 millions. Il y a 11 000 cas.
Oui.
Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait zéro?
Alors, c'est impossible.
Alors, est-ce qu'on peut admettre, effectivement, que cette épidémie, elle perdure sans qu'on soit tous à l'arrêt? Parce qu'en fait, on n'a pas le choix.
Mais je sais qu'on n'a pas le choix, c'est ce que je disais à votre collègue hors antenne. On veut préserver. Moi, je pense aux restaurateurs, qui sont l'une des catégories professionnelles les plus impactées, où les gens ont commencé à fermer parce qu'ils ne pourront pas s'en sortir. Les restaurateurs ont quand même eu des restrictions sanitaires qui ont été appliquées, où on aurait pu les laisser travailler. Non, on a préféré les fermer. On a dit on va fermer les restaurants. Tous les restaurateurs, sans parler de ce qu'il y a derrière, hein, les sous-traitants au niveau de cette catégorie professionnelle. Personnellement, je pense que le gouvernement a mal géré la crise, dans la communication et dans ce qu'ils ont fait. Le Covid est là, ce virus est là. Il va falloir malheureusement comment vivre avec, mais préserver une certaine catégorie de population telle que les personnes âgées.
Bon, Marie-Jo est là et elle va pouvoir échanger avec vous. Bonjour Marie-Jo, vous écoutez Patrick, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire?
Moi, j'ai envie de lui dire qu'on pourrait très bien vivre sans confinement si chacun voulait mettre du sien, faire attention. Moi, j'ai 74 ans. Depuis le 9 mars, je porte un masque. Je me suis fabriquée toute seule. Je m'occupe de ma maman. J'y vais tous les jours. Ni elle ni moi n'avons attrapé le Covid. Et pourtant, je sors, je fais des courses. Je fais ses courses. Je l'emmène chez le médecin. Je l'emmène à droite, à gauche. Et ni ma mère ni moi n'avons le Covid. Ni mes frères et sœurs. On est tous à risque parce que moi, je suis l'aînée. Ma plus jeune sœur a 65 ans. Ni les uns ni les autres n'avons le Covid. Et nous faisons attention. attention, nous sortons, mais voilà, c'est pas, et on garde des gestes barrières. Moi, j'embrasse pas mes frères et mes sœurs. On se reste éloignés les uns des autres quand on se parle. On fait hyper attention, d'ailleurs, déjà pour nous protéger, puis surtout pour protéger notre mère, parce que je suis pas la seule à aller la voir. Y a pas de souci, quoi. Si chacun y met du sien, on devrait pouvoir se protéger sans se confiner, quoi.
Danielle est là également, qui est assistante maternelle, qui habite Angers. Danielle, comme ça, on va pouvoir avoir un dialogue à trois entre Marie-Jo, dialogue et entre Marie-Jo, Danielle et Patrick. Danielle.
Oui. Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs. Bien sûr, l'auditrice précédente avait raison de dire il faut se protéger, mais le souci, c'est que quasiment personne ne fait attention. Moi, j'habite dans le centre-ville d'Angers, donc quand je sors de mon appartement, je vois la majorité des gens ont le masque sous le nez, s'ils ne l'ont pas sous le menton.
Bah, quand on est dehors, c'est toujours pareil. Dehors, on sait bien que ce n'est pas la même chose que quand on est à l'intérieur. Moi, je suis le premier, parfois, quand je suis dehors, à le porter comme vous le dites. Parce que il n'y a personne autour de moi, donc je le baisse un peu. Et puis, dès que je rentre dans un commerce ou dès que je rentre dans un bureau, je le mets de la manière dont il faut le porter.
Dehors, Pascal. Le dehors, quand on croise une personne dans la rue, ok. Mais quand on est touche à touche dans une rue piétonne bondée de monde...
Vous avez raison, là, effectivement. C'est pour ça que... C'est pour ça d'ailleurs qu'on va continuer la conversation après la pub. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Alors Marie-Jo et Daniel sont restés avec nous pour évoquer entre guillemets cette possible troisième vague et ce qu'il faudrait faire. Daniel avait la parole.
Oui, bah c'est très simple. Moi, je suis persuadée qu'elle sera là, la troisième vague. Mmh. Et sûrement d'une façon très sévère, parce que les gens n'aiment pas les contraintes. Mais c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute de Pierre-Paul Jacques-Jean, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Si chacun d'entre nous acceptait de bien mettre son masque, acceptait d'avoir toujours du gel, parce qu'attention, en plus avec le froid, on va mettre des gants, et quand on arrive avec des gants dans un magasin, là les mains, on peut pas laver les gants, hein, donc en cuir et etc, donc ou en laine, donc c'est fichu. Moi, vendredi soir, un exemple, je rentre dans une petite boutique à Angers, 4 personnes rentrent derrière moi. Je cherchais où était le gel. Il était derrière la caisse de la vendeuse, donc quasiment inaccessible. Donc moi, j'ai sorti le mien de ma poche pour avoir ce geste barrière, pour ne pas contaminer éventuellement les choses à l'intérieur du magasin. Mais les personnes qui sont rentrées, moi j'ai l'œil, je suis obsédée par ça. Donc je regardais les autres. Et sur 4 personnes, moi j'étais la 5e, et c'est seulement moi qui ai eu le réflexe gel. Donc... toutes ces petites choses-là sont quand même pas si contraignantes. Pourquoi on ne le fait pas d'une façon...
Vous savez que sur le gel, même et sur la transmission avec les mains, on n'est même pas sûr aujourd'hui que ça se transmet comme ça, si vous me permettez.
Oui.
Hein.
J'ai tout entendu
là-dessus.
Oui, mais mieux vaut faire un peu trop que pas suffisamment.
Oui, j'entends bien, mais vous avez raison de toute façon, vous avez raison, mais la difficulté, et on le sait bien, c'est que on peut pas arrêter de vivre, voilà. On peut pas arrêter de vivre.
Moi, j'ai pas l'impression que ma vie soit arrêtée.
Mais parce que vous êtes, je peux vous demander ce que vous faites dans la vie, Danielle?
Oui, après une carrière dans un bureau, je me suis reconvertie comme assistante maternelle.
Bon, donc... vous êtes payée chaque mois?
Bien sûr.
Bon, bah allez demander aux restaurateurs et aux gens qui ont zéro depuis des mois s'ils ont le sentiment que leur vie n'a pas changé. Parce que c'est ça le nerf de la guerre.
Oui, mais mon
fils, il y a ceux qui sont payés et ceux qui ne sont pas payés à la fin du mois.
Oui, alors je peux vous donner aussi l'exemple. Je suis maman de 3 grands enfants, bien sûr. Mon fils cadet est auteur et comédien et metteur en scène. Et ben son activité, c'est zéro. Il souffre financièrement, bien évidemment. Tous les contrats sont reportés à je ne sais quand. Donc, il est largement touché. Mais quelque part, pour autant, même si c'est dans cette difficulté financière, lui comme nous, quand on en discute ensemble, on se dit, mais si chacun...
Mais si ça dure 5 ans?
Ça ne durera pas 5 ans.
Mais vous n'en savez rien, moi non plus.
Des médic- moi je suis confiante, il y aura des médicaments, il y aura des vaccins.
Mais le sida, non, personne n'a rien trouvé en 25 ans ? Quoi, non, j'exagère d'ailleurs, il y a eu des trithérapies qui se sont mises en place, mais ça n'a pas été rapide ? Vous en savez rien ?
Ouais, mais moi,
c'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, alors là, on parle d'un vaccin. Déjà, j'entends, comment dire, des réserves sur le vaccin
que vous avez
entendu, Alain Fischer. J'ai entendu, c'est Monsieur Vaccin. Oui. Bon, il est très prudent. Les médicaments, je m'aperçois qu'il n'arrive pas, que ce virus, il est toujours là. Donc, je dis, alors peut-être pas 5 ans, mais si ça dure 2 ans, vous faites comment ?
Alors, bien sûr, vous avez raison, Pascal. Je suis salariée et le salaire tombe coûte que coûte, donc voilà. Mais malgré tout, j'en reviens à Olivier, par sa profession, lui...
Mais votre fils, pendant 2 ans, il peut ne pas travailler ?
Ben, je sais pas quelles aides...
Mais l'argent, il n'est pas magique.
Mais je sais bien...
Donc, il y a un moment, même c'est nous qui allons payer, c'est les jeunes générations, peut-être, qui sont... qui vont payer. On a trouvé de l'argent partout.
On peut pas laisser. Alors par contre, dans mon entourage, il y a des gens. Là, c'est pas on m'a dit que Monsieur Intel ou Madame Truc. C'est réellement, il y a eu des décès sur des gens.
Ah mais bien sûr.
En pleine santé. Hein.
Oui. Alors.
Et pas que des anciens. Hein.
Oui. Quoi. Statistiquement, moi, je me fie aux statistiques. Là, pour le coup, a priori. Alors, il y a toujours, bien sûr, mais a priori, c'est des gens qui. La moyenne d'âge était, je crois, au-dessus de 60 ou 65 ans, très largement. Mais il n'empêche, de toute façon, il est clair que là aussi, c'est une question de doctrine. Je fais un parallèle avec les violences de la police et des manifestations. C'est que là, on considère qu'on ne peut pas faire mourir une personne en France dans un hôpital parce que l'hôpital est encombré. Donc c'est une doctrine et la société n'accepte plus ce qu'elle a pu accepter jadis. Donc on ne refusera plus quelqu'un. Donc comme l'hôpital est en tension, on connaît ça par cœur depuis des mois, et bien...
Oui, mais vous voyez, les personnes qui disent on s'en fout à Noël, ils vont pas nous empêcher de nous réunir, etc.
Oh, personne dit ça vraiment quand même.
Ah ben, si, moi je
crois, il y en a, mais c'est à la marge. Il faut trouver un compromis.
Ouais, mais enfin, il y en a beaucoup qui pensent que à cette privation depuis le début de l'année 2020, donc à Noël.
Les gens sont raisonnables. Moi, je connais beaucoup de familles aussi où les anciens vont pas recevoir leurs enfants à Noël.
Ouais, les anciens, mais il y a quand même pas mal de monde autour de moi.
Parce que les jeunes, ils savent que ils échappent à la maladie, en tout cas à l'aspect dramatique de la maladie. Donc, ils ont un rapport différent. Mais les gens qui sont concernés, croyez-moi, ils savent se protéger quand même.
Enfin, il y en a plus qui pensent à faire la fête que de gens qui vont faire extrêmement attention et se priver. Excusez-moi pour les petits bruits.
Mais non, mais alors, vous avez combien de petits enfants derrière vous ?
Alors là, j'en ai deux qui sont couchés et qui dorment, et j'en ai deux qui font de la résistance et qui ne dorment pas. Alors,
donc vous en avez 4 par jour ?
4 tous les jours, oui.
Ah, dites donc, c'est du boulot.
19h30.
Et entre quel âge et quel âge ?
Alors, des jumeaux de 10 mois. Un autre petit garçon qui a 26 mois et une petite fille de 20 mois.
Et qui ne dort pas ?
Eh bien, celle de 20 mois et la petite fille jumelle.
Ah oui,
a 10 mois, mais elle dort très très peu, donc voilà.
Bon.
Malgré l'âge, elle dort très peu.
Bon, bah écoutez, merci en tout cas, Daniel, de cet échange. Et merci Marie-Jo également. 13h57, le flash. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
À la seconde près, il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
Un professeur de Haute-Savoie mis en examen pour homicide involontaire après le décès d'un de ses élèves. Le garçon de 13 ans a fait un malaise cardiaque le 1er décembre dernier lors d'un cours de sport alors qu'il bénéficiait d'une dispense. La pratique d'activité sportive était contre-indiquée dans son cas. L'enquête va donc tenter de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Une semaine après le début du procès des écoutes, Nicolas Sarkozy sera à la barre cet après-midi. L'ancien président de la République, qui fait partie des 3 prévenus, a promis de s'expliquer et de répondre à toutes les questions au nom de la vérité. Pour les secteurs professionnels les plus touchés par la crise sanitaire, finalement, les compagnies d'assurance acceptent de geler les cotisations pour 2021. Après un week-end de tension, un accord a été trouvé avec Bercy. Ce sont les entreprises de moins de 250 salariés de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme ou encore du sport qui sont concernées. Le salon aéronautique du Bourget, lui, devait se dérouler rassemblés sur une semaine en juin prochain. Il vient d'être annulé à cause des épidémies. C'est la première fois qu'un souverain pontife se rend en Irak. Le pape François effectuera une visite du 5 au 8 mars prochain. Ce voyage symbolise un message de paix pour le pays et pour toute la région, selon le ministère des Affaires étrangères irakien. La météo, nouvelle perturbation attendue sur le sud en fin d'après-midi. Les éclaircies n'auront pas duré longtemps. Les pluies arrivent également sur le Berry, la Bourgogne, Franche-Comté, la région Rhône-Alpes. Chute de neige à basse altitude, très très possible. Vous écoutez RTL et c'est la suite des auditeurs. On a la parole avec vous, Pascal Praud.
Merci Agnès Bonfillon. Et effectivement, Sylvain Maillard nous a rejoint. Il est député de Paris, porte-parole du groupe de La République En Marche. Je le salue. Bonjour Pascal Praud. On va pouvoir parler de la doctrine du gouvernement. Est-ce que les policiers en font assez sur le terrain ou pas ?
Voitures brûlées, banques, agences immobilières vandalisées. Nouvelle scène de violence samedi lors de la manifestation contre la loi de sécurité globale. Des incidents à Paris, Lyon, Dijon ou encore Nantes. Et le ras-le-bol de ces habitants, commerçants, manifestants dans la capitale rencontrés par Vincent Serrano.
Mais il y en a marre de ces foutus casseurs. Ils sont une poignée. Il n'y a qu'eux qu'on entend.
Je ne sais pas comment vous dire, moi j'ai jamais vécu ce climat. On a senti tout de suite que ça allait être chaud parce qu'on était encadrés des deux côtés par la gendarmerie. Et non, là, enfin, moi j'en veux à la préfecture.
Saccagé par des sauvages. Je peux pas dire autre chose que ça, malheureusement, parce qu'on voit une vitrine qui est complètement détruite. C'est de la violence purement gratuite.
95 personnes ont été interpellées samedi, 67 membres des forces de l'ordre blessés, dont 48 à Paris. Les casseurs cassent la République, a réagi sur Twitter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais la police fait-elle tout ce qu'il faut pour arrêter les Black Blocs ? Doit-elle changer de stratégie, aller plus au contact ? Grégory Joron est le secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police FO. Il était l'invité de RTL Soir avec Vincent Parisot samedi.
C'est pas parce qu'ils sont 100 et nous à milliers que c'est facile de les maîtriser, au contraire, parce qu'ils sont au milieu des manifestants pacifiques et aller les chercher créerait forcément des blessés parmi ces manifestants pacifiques. Donc c'est toute la difficulté de l'exercice et je pense qu'on a pris beaucoup de retard sur la gestion de ces groupes ultra qui ont une idéologie politique, celle de créer le chaos et de déstabiliser.
Et du côté de l'opposition, Marine Le Pen a dénoncé sur LCI le laxisme du gouvernement.
Ils sont en général des fils de bourgeois, d'extrême gauche, qui viennent absolument tout casser. Et ça fait 5 ans qu'on ne les arrête pas. Or, le gouvernement sait qui ils sont, ils ont leur nom, ils ont leur adresse, ils savent de qui sont les enfants, ils savent où ils habitent et on les laisse venir.
Les prises de parole se multiplient tout le week-end. Le sénateur Les Républicains Bruno Retailleau a lancé hier sa proposition chez nos confrères de BFM.
Je propose que l'on crée des brigades anti-Black Bloc. Leur fonction, leur unique fonction, ce serait cette infiltration, ces études des images pour pouvoir prendre des individus. Si on ne tape pas dur et fort, on se condamne à l'impuissance. Donc, lâchons-les, le désordre, ça suffit.
Alors nous vous posons de nouveau la question, comment empêcher les casseurs de perturber les cortèges ? Le gouvernement est-il à la hauteur ? Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, doit-il rester à son poste ? Réponse il y a quelques jours du Premier ministre Jean Castex.
Le préfet de police, comme le ministre de l'Intérieur, a toute ma confiance.
Et avec nous en studio, Sylvain Maillard, député de Paris et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale.
Et je le salue, monsieur Maillard, bonjour.
Rebonjour.
Pour le coup, c'est pas tant une question de maintien de l'ordre qu'une question politique. Parce que c'est sans doute possible d'intervenir. C'est sans doute compliqué, difficile, mais faut définir une doctrine. Et le choix politique, il est terrible. C'est-à-dire que le choix politique, pour le moment, c'est de ne pas aller au combat. Parce qu'on ne veut pas de blessés, parce qu'on ne veut pas de morts. Et ça s'entend. Est-ce que cette stratégie doit être mise en cause ?
Oui, c'est une stratégie. C'est notre stratégie. C'est la stratégie qui est appliquée depuis de nombreuses années, des dizaines d'années en France, avec quand même une détérioration. Il faut le dire, on a traditionnellement des manifestations en France avec un cordon de sécurité, un service d'ordre organisé par, en général, les syndicats. Donc, c'est tenu, ce sont des manifestations tenues pour la protection des manifestants, parce que l'idée, c'est de protéger les manifestants. Les dernières manifestations, ça se passe pas comme ça. La dernière manifestation samedi est à l'appel de la CGT, la FNJ, donc la Fédération des journalistes, CGT. Il y a très très peu de services d'ordre. Pas du tout à la hauteur du niveau de la manifestation. Et donc, dans ce cadre-là, ça devient plus compliqué. D'autant plus que depuis quelques mois, qu'est-ce qu'on voit ? On voit à l'intérieur des manifestations des pseudo-journalistes qui mettent un casque presse et qui passent leur temps à filmer les forces de l'ordre et qui gênent en fait leur intervention. On a aussi les street medics, faut le dire. Des gens qui aiment sûrement bien la médecine ou qui ont quelques pansements et donc qui se définissent comme des médecins et qui sont à l'intérieur et qui empêchent parfois l'action des policiers. Les policiers sont quand même très entravés dans l'action. Donc quand ils doivent aller chercher quelqu'un, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont là pour les gêner. Donc il y a une réflexion à faire. Et puis je vais dire les choses très clairement. Il y a dans notre législation une difficulté parce qu'un black box, on nous dit il y a qu'à l'arrêter en amont. Non mais dans la loi française, ça marche pas comme ça. Dans la loi française, il faut d'abord qu'il ait eu un acte.
Moi, ce que j'entends,
c'est ça qui était. Qu'il a eu un acte, délictueux, et qu'ensuite on arrête la personne.
Mais monsieur Maillard, j'entends, et ceux qui vous écoutent entendent la même chose que moi, vous êtes en train de nous expliquer pourquoi, mais on le voit sur le terrain. Il n'y a rien à faire, c'est ce que vous nous dites.
Je ne dis pas ça parce qu'après, je fais un état des lieux. Et ensuite, on va réfléchir tous ensemble.
On va réfléchir
d'ici samedi. D'ici samedi, comment faire ?
Oui, trois ans, quatre ans.
Attendez,
on va réfléchir.
On est dans une situation compliquée. On est dans une situation globalement compliquée. Donc, si on avait une baguette magique, on adorerait l'appliquer immédiatement. La situation, moi, je voudrais le redire, ma solidarité avec les policiers. Ils font un travail extrêmement difficile. Et si jamais il y avait un blessé, un grave ou un mort, vous seriez les premiers à dire que c'est scandaleux et qu'ils travaillent très mal.
Pas dans ma bouche, quoi.
Bah si, Pascal. Je vous assure que c'est comme ça que ça se passe. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est trouver, être professionnel et de faire en sorte qu'il y ait une intervention, mais dans le cadre de la loi. Et la loi, c'est vrai. Moi, je veux bien en discuter. La loi fait qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un s'il n'a pas commis un acte délictueux. La réalité des choses.
J'entends bien, mais quand vous avez un manifestant qui lance un marteau sur un policier, vous l'avez vu, cette image. Bon. Ça s'appelle quoi? C'est une tentative de meurtre.
Tentative de meurtre. Il faut l'arrêter, l'interpeller. Le confondre, parce qu'évidemment il est masqué, le confondre et être sûr que c'est bien lui, et à ce moment-là il sera jugé.
Et en plus, si effectivement on avait une réponse pénale très forte, ça serait peut-être dissuasif.
95 interpellations, je vous rappelle.
Zéro personne en prison.
Ça fait trois jours. Attendez, on va voir. Une interpellation.
Combien de personnes sont en garde à vue en ce moment?
Il y a enquête, Pascal. Il y en aura d'autres. Il y aura des interpellations, d'autres, et on mènera l'enquête et on fera en sorte qu'il soit.
Mais monsieur Maillard, je le répète.
Je dis pas que c'est simple, hein.
Mais moi non plus.
Je dis pas que c'est terminé non plus.
Je vous dis que à l'heure à laquelle nous parlons, personne parmi les Black Blocs n'est en prison.
Pascal Praud, à l'heure où je vous dis, je vous dis, des enquêtes sont en cours. Je sais pas à moi de parler de cela.
Mais les enquêtes, c'est d'ailleurs très difficile.
Les enquêtes sont difficiles, sont en cours. Mais sachez que notre détermination est totale pour arrêter l'ensemble de ceux qui ont commis les actes, et particulièrement celui dont vous avez parlé, mais il y en a d'autres, qui lancent un marteau en plein visage d'un policier à 2-3 mètres.
C'est effrayant, en fait. Et je me dis, les pauvres policiers qui en prennent, je le disais tout à l'heure, et l'expression est triviale, plein la gueule, au sens propre comme au figuré.
Et les policiers, ce sont des hommes et des femmes qui ont des enfants et qui viennent pas travailler pour rentrer blessés. Je rappelle qu'il y en a eu encore 48 blessés samedi à Paris.
Je suis d'accord, on va marquer une pause. Mais justement, quand ils entendent le président de la République parler de violences policières et non pas de violences de policiers...
C'est des violences de policiers. Je le redis, et il l'a dit très... Non mais vous avez vu dans l'état où ça s'est passé...
Il a dit violences policières, si ça vous fait
discussion. Ce sont des violences de certains policiers qui sont très très minoritaires. Les autres font un travail fantastique.
C'est formidable, c'est moi qui défendre la police, vous rendez.
Mais j'espère bien, tout le monde doit défendre la police. C'est notre police.
En tout cas,
tous les citoyens doivent défendre la police.
Je ne sais pas s'il faut la défendre, mais il faut l'aider. 14h09, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Sylvain Maillard est avec nous, mais évidemment, l'idéal, c'est d'entamer la conversation avec lui. Et ce sont les auditeurs qui sont chargés de cela. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Vous nous écoutiez et vous pouvez interpeller Monsieur Maillard.
Alors déjà, ça me fait rire quand il parle de violence de policiers et non de violence policière. Voilà, on sait très, y a qu'à voir dans les manifs encore ce week-end, un gamin qui perd une main, quelqu'un qui fait défoncer la jambe par un LBD, etc. Donc la police est violente, voilà. Donc elle est peut-être pas violente directement en donnant des coups, mais elle est violente avec des armes de guerre. Donc déjà d'une... De deux, faudrait dire à Mme Le Pen qu'elle revoie ses copies, parce qu'en fait, le Black Bloc, c'était des enfants de bourgeois, elle a encore rien compris à l'affaire. Faut que vous compreniez que les Black Blocs, c'est la lutte des classes. C'est la bourgeoisie contre le prolétariat. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils cassent? Ils cassent des symboles du capitalisme, des assurances, des banques. Il faut savoir quand même que les banques récupèrent combien de milliards d'euros par an en mettant des ajouts à des gens qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois. Les assurances qui prennent même pas en charge les pertes des restaurateurs qui peuvent pas travailler depuis 6 mois.
Et donc, Philippe, une question peut-être pour Sylvain Maillard.
Oui. Bah, là, j'ai pas de question directement pour lui. Sauf que, il faut arrêter de faire passer les Black Blocs pour des méchants, parce qu'à ce moment-là, il y a une violence gouvernementale, il y a une violence policière. La violence gouvernementale, c'est quoi? On nous impose des choses, on nous impose de plus en plus de lois liberticides, d'accord? Et après, il faut quand même savoir qu'il n'y a pas de révolution sans casser des œufs, entre guillemets.
Ah oui, donc vous êtes un révolutionnaire, donc clairement, comme ça, vous...
Mais je soutiens les Black Blocs.
Mais dites-moi, vous travaillez, vous êtes dans une entreprise de poids lourd, Philippe?
Ouais, je suis chauffeur poids lourd.
Donc si on vient casser votre entreprise, par exemple, et votre camion, pourquoi pas, si les Black Blocs considèrent que vous êtes un des agents du capitalisme, puisque vous êtes chauffeur poids lourd et que vous allez peut-être livrer, je ne sais pas, des choses à droite, à gauche, ils vont venir casser votre chauffeur, votre
vous
camion, vous trouvez ça très bien.
Il y a des choses qui représentent non, le mais capital.
Vous représentez sans doute le capital, j'imagine que...
Bah non, attendez.
Je ne sais pas ce que vous livrez, différent. Mais vous livrez peut-être des choses qui rentrent dans cette catégorie-là.
Mais... Alors nous on a déjà été, alors pas dans ma centrale, alors moi je livre du béton, d'accord. Il y a déjà des centrales béton qui ont été bloquées par des écolos parce que bah voilà le béton, la pollution.
Non mais le jour où ils cassent votre camion, vous direz très bien.
Ah bah je m'en fous, c'est pas mon camion.
Ah bah ça c'est bon, ça c'est voilà, sympathique c'est comme réponse. Mais Monsieur Maillard vous répond, c'est bien, vous avez... c'est pas mal comme réponse pour quelqu'un. C'est pas votre camion, mais c'est votre outil de travail quand même, et c'est votre patron qui vous paye peut-être, cher Philippe. Mais Monsieur Maillard vous répond.
Vous voyez Pascal Praud, c'est ça la difficulté, c'est qu'on est dans une République. Moi je suis très fier d'être élu de la République. Et puis il y a une partie de la population, de vos auditeurs, de cet auditeur, qui lui ne veut plus la République. C'est-à-dire qu'il estime que la majorité qui a voté pour des députés, qui a voté pour un président de la République, finalement, il n'y a qu'à passer outre. J'ai une idée, je veux qu'elle soit appliquée, puis je m'en fous. Enfin, le reste, je m'en fous. Bah, c'est exactement ce qu'il dit. Voilà, bah, moi, je me bats pour la République, je me bats pour que les policiers puissent exercer leur métier en notre nom. Je pense que la majorité et la minorité, les uns et les autres, ça se respecte. Que moi, je suis enfant de ça, je suis député. Après, j'aurai une autre vie et je trouve ça extraordinaire qu'on puisse exprimer, que monsieur puisse exprimer sa parole, parce qu'il va dire qu'il est en dictature, il a l'antenne à l'antenne d'RTL. C'est toute cette ambivalence d'un mouvement d'extrême gauche qui joue un peu les deux, et puis en même temps, bah, ils sont un peu suppôts du capitalisme, parce que bon, bah, ils travaillent et puis il est content de livrer son béton. Voilà, bah, c'est tout ça que je ne comprends pas. Je comprends pas qu'on soit allé à l'école de la République et qu'on se batte pas pour la République. Ça, je ne comprends pas.
Alors, Daniel est là, et Daniel est ancien gendarme, et il a dû écouter également ce que disait Philippe, mais bon, ça montre que cette émission, toutes les voix sont audibles et écoutables, cher Daniel. Bonjour.
Oui, tout à fait, bonjour Pascal, et merci d'avoir sélectionné mon appel, effectivement. Effectivement, si on rentre dans le système un petit peu de la politique, contrairement à ce que disait le monsieur, et qui participe effectivement au Black Bloc, eh ben écoutez, effectivement, je suis peut-être d'une vieille génération où effectivement j'ai quand même assisté à pas mal de manifestations en prenant des pavés en pleine figure. À cette époque-là, effectivement, c'est des pavés et en même temps des petites pièces de 2 centimes où on nous disait ça au ras du nez en disant ben écoute, ramasse, c'est trop payé. Bon, c'était une image à cette époque-là, mais maintenant on est rendu dans un stade de violence où c'est quand même relativement assez difficile quand on arrive justement, quand je vois ces jeunes qui arrivent à démonter, à défaire complètement les piliers, les petits piliers, là, les petites bites, d'anti-stationnement, et j'arrive à les démonter pour fracasser des vitrines et de prendre ça sur un bouclier qui fait tout 2 cm, même pas 2 mm d'épaisseur, vous vous rendez compte qu'il y a une violence qui est absolument terrible, terrible. C'est pas possible, on peut pas. Alors, effectivement, que voulez-vous qu'il fasse le policier à ce moment-là? D'autant plus que nous, à ce moment-là, on a des stages, il y a toujours des stages quand on est à Saint-Astier, pour justement apprendre à gérer les manifestations. Mais à ce moment-là, si vous voulez, en face de nous, c'est quoi? C'est des collègues qui jouent les genres de manifestants avec des petits cailloux et des balles en mousse. Bon, effectivement, quand on se retrouve ensuite en pleine manifestation comme on l'est là, que j'ai vu encore à la télé l'autre jour, c'est pas possible, quoi. C'est d'une violence terrible. Et comment les attraper? Le monsieur disait tout à l'heure de lancer un marteau. Non mais attendez, quand le type il vous lance un marteau, il va pas rester là en disant ben ça y est, je t'ai eu. Non, au contraire, il part encore plus vite et on n'a pas forcément tous les moyens. Si vous partez en individuel comme ça, en chargeant, vous vous faites ramasser et massacrer comme c'est déjà arrivé. Donc c'est relativement assez difficile, c'est très 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 difficile.
Sans doute Daniel, on va marquer une dernière pause et puis on revient ensuite pour terminer avec Monsieur Maillard.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Sylvain Maillard, qui est député de Paris, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Bon, vous ne m'avez pas dit ce qui va se passer samedi.
Écoutez, pour le moment, samedi prochain, il n'y a pas de dépôt en préfecture pour une demande de manifestation. Donc voilà, on attend, mais évidemment, on est un peu inquiet là-dessus.
Bruno est avec nous. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour Pascal. Bonjour,
qu'est-ce que vous préconisez?
Oh ben, il y a deux choses. Moi, il y a un truc qui m'énerve aussi, comme la majorité de la population, c'est de voir en permanence tous les samedis se répéter la même scène avec des black blocs qui viennent là pour foutre la merde, qui n'en ont rien à faire du sujet de la manifestation, de défendre quelconque idée à parler leur, et qui viennent là pour casser. On le sait très bien. Ce qui me gêne moi là-dedans, c'est que le gouvernement sait parfaitement qui ils sont et où aller les chercher. Et ce qui m'embête quand ce que je dis, c'est que c'est la même idée que Marine Le Pen. Ça m'embête. Et ça, ces gens-là, on ne devrait pas les laisser agir. On devrait les faire pointer au commissariat le jour où il y a des manifestations, mais on ne devrait pas les laisser venir dans les manifestations, casser des magasins, brûler des voitures, taguer ou détruire les monuments historiques. En gros, foutre le bordel, quoi. C'est insupportable d'avoir des gens dont on sait parfaitement pourquoi ils viennent, on sait qu'ils veulent casser, et on les laisse faire. Et d'avoir des policiers qui sont un petit peu les mains dans les poches, puisqu'ils ne peuvent pas agir, je comprends parfaitement la volonté des gouvernements successifs, depuis longtemps, de ne pas vouloir de mort dans les manifestations, mais à un moment donné, il va falloir faire quelque chose et arrêter de laisser faire ces espèces d'abrutis qui n'en ont rien à faire de rien et qui veulent juste faire passer, comme vous disiez tout à l'heure, faire passer leurs idées, ou c'est monsieur le député qui disait ça tout à l'heure, qui veut faire passer des idées de n'importe quelle manière. Et puis voilà, aujourd'hui on les laisse faire et ça devient insupportable. Donc je pense qu'aujourd'hui il faudrait peut-être, je ne sais pas si on peut revoir le disposition législative en France, je sais qu'a priori on ne peut pas. En l'état actuel de la législation, on ne peut pas le faire, mais il faut les empêcher de manifester. Et j'entends déjà, moi, des boucliers qui vont se lever, oui, les libertés, etc., on prive des gens de manifester. Ces gens-là, ils ne peuvent pas manifester. Quand on manifeste, on le fait d'une manière pacifique pour se faire entendre, mais pas en cassant soit du flic, ou soit en cassant des monuments, ou je ne sais quoi.
Sylvain Maillard.
Vous avez dit bonjour, vous avez dit beaucoup de choses très justes. D'abord, dans notre état de droit, on ne peut pas arrêter, mettre quelqu'un en prison ou l'arrêter en garde à vue s'il n'a rien fait. Et donc, malheureusement, il faut qu'il y ait un acte délictueux pour qu'on puisse mettre la personne en prison. Je voudrais juste dire une chose très simple. Évidemment, on n'a pas un fichier avec l'ensemble des black box et on sait exactement qui fait quoi. Là, en début de votre propos, vous laissiez entendre ça. C'est pas tout à fait la réalité, évidemment. Évidemment, beaucoup d'entre eux sont connus, mais tant qu'il n'y a pas action, c'est dans notre état de droit, et moi j'entends, je veux bien discuter d'ailleurs d'une modification législative, mais dans notre état de droit, on ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'on pense qu'il va faire ceci. C'est le fondement même de notre droit. Si on le transpose dans d'autres situations, imaginez-vous qu'on arrête quelqu'un parce qu'on pense qu'il va peut-être cambrioler. Voilà, ça ne fonctionne pas comme ça dans notre état de droit. Je pense que c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut être inactif. Moi, je dis que dans ces manifestations, il faut aussi qu'il y ait un service d'ordre à l'intérieur de la manifestation. Quand vous appelez, quand vous êtes un grand syndicat, et c'est le cas de la CGT, d'appeler à manifester et de ne pas organiser un cordon de sécurité autour de ces manifestants, les faire prendre des risques. Et finalement, à chaque fois, les black box viennent se réfugier à l'intérieur de la manifestation. Et évidemment, les policiers ne le poursuivent pas parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de blessés. Et ils sont là pour protéger aussi les manifestants. Donc moi, j'en appelle à la responsabilité aussi des organisateurs et de faire en sorte que si on organise une manifestation, il faut être capable de protéger, d'avoir un service d'ordre, comme ça s'était fait auparavant. Moi, je crois qu'il faut revenir à la responsabilité de chacun d'entre nous.
On se rend bien compte, Monsieur Maillard, que le droit de manifester est dévoyé. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui manifestent simplement ou qui sont présents sur le terrain pour casser. Le but de la manifestation est détourné. Donc se pose aujourd'hui le problème de la manifestation en elle-même, puisque le droit de manifester, il est un prescriptible, sans doute. Mais si la manifestation est complètement dévoyée à chaque fois, chaque samedi?
Mais c'est pour ça, les black box, ils n'en ont complètement rien à faire, la manifestation.
Bien sûr.
C'est que la manifestation les protège. Donc eux, en fait, s'il y avait n'importe quoi d'autre, ils viendraient, ils sont là pour casser et pour être filmés.
Mais
moi, je le redis aussi, tous ceux qui viennent tout le temps à les filmer, à mettre sur les réseaux sociaux, mais ils attendent que ça. Donc ils viennent pour être filmés, pour être vus, pour faire peur, et donc profitent de la manifestation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, non seulement les policiers doivent travailler, évidemment, mais ceux qui organisent la manifestation doivent faire en sorte que leur manifestation soit parfaitement protégée. Tout le monde se tire, pardon de l'expression, se tire une balle dans le pied parce que ça rend les manifestants inaudibles. D'ailleurs, le message, plus personne ne sait pourquoi ils sont venus manifester samedi, rend inaudible et donc est contre-productif. Moi, je reviens au fait de dire les organisateurs de manifestations et des syndicats au premier chef doivent organiser parfaitement le service de sécurité. Sinon, ça ne peut pas marcher, ça compte. Je n'espère pas que ça continuera comme ça, mais on voit bien la difficulté des policiers.
Ça fait des années quoi, ou des mois que ça dure comme ça dans toutes les manifestations. Donc on pense aux policiers, bien sûr. On pense aux commerçants qui n'en peuvent plus. On pense aux promeneurs.
Aux familles, Pascal Pro, aux familles qui habitent au 3e, 4e, 5e étage avec une voiture qui brûle en bas. Quand vous avez des enfants, vous vous rendez compte de la peur que vous avez. Vous êtes bloqué, vous ne savez pas si vous pouvez sortir, rien. Mais ça, tout le monde s'en moque, ça. Vous savez quoi? Les gens sont en bas, ils sont en train de filmer les familles en détresse au balcon. C'est ça aussi. Ça. Je pense qu'il faut un appel à responsabilité chacun d'entre nous aussi.
Et peut-être un peu d'autorité et de force. Je rappelle que sur les interpellations aujourd'hui, aucune personne ne dort en prison.
Pour le moment, Pascal.
À 14.
Le moment, Pascal.
Vous avez raison. 14h27, Greca Anoni. À tout de suite avec Flavie Flamand, peut-être.
Elle arrive.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.